Bienvenue à tous sur nos ondes. Nous commençons par les informations. Le Premier ministre Stanislav Gross a une fois de plus invité les anciens partenaires de la coalition gouvernementale à former un gouvernement pro-européen qui dirigerait le pays jusqu'aux prochaines législatives de 2006. Il a fait cet appel après que la direction de son parti, la social-démocratie, avait rejeté l'accord conclu à l'issue des négociations nocturnes menées entre les trois partis de coalition, les sociaux-démocrates, les chrétiens-démocrates et les unionistes. La cause du rejet est que la social-démocratie conditionnait la formation d'un nouveau cabinet par la non-représentation des hauts représentants des partis concernés dans le nouveau cabinet, ce qui n'était pas respecté de la part des chrétiens-démocrates, qui ont nommé deux vice-présidents du parti et ministres du cabinet actuel. Le président de la République, Václav Klaus, y a réagi en déclarant qu'il n'approuverait pas la formation d'un gouvernement minoritaire. D'après lui, il n'existe que deux variantes, soit un nouveau gouvernement composé sur la base de la coalition issue des élections de 2002, soit les élections anticipées. Un incendie a envahi vendredi matin le château gothique de Pernstein, près de Brno. Les dégâts sont évalués à 100 millions de couronnes. Le feu a détruit plus de 1000 objets historiques de haute valeur, dont des tableaux et des meubles d'origine. Le château gothique de Pernstein, édifié au XIIIe siècle, est l'une des perles architectoniques de la Moravie du Sud. L'équipe de l'hôpital de campagne tchèque déployée au sud du Sri Lanka rentre en Tchéquie. C'est la fin d'une mission de 3 mois dans la ville de Galle, pendant laquelle les médecins tchèques aidaient les victimes des tsunamis. Le chef de la mission restera jusqu'à la fin avril sur l'île pour négocier avec la partie sri-lankaise de l'avenir de l'hôpital. L'élargissement de l'Union européenne en mai dernier a apporté beaucoup de choses positives, mais au regard des conditions de travail, il a plutôt compliqué la vie aux habitants des 10 nouveaux pays. Ceux-ci sont en retard, notamment dans le domaine des rapports entre employés et employeurs. Voilà la conclusion d'une recherche réalisée par l'Organisation internationale du travail en collaboration avec la Commission européenne. Les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale persistent 60 ans après la fin de la guerre en Europe. Ils se projettent dans les rapports internationaux. C'est ce dont est convaincu le politologue tchèque Bohumil Doležal, qui a initié un appel adressé au Parlement européen et l'invitant à la conclusion de ce chapitre de l'histoire et à la réconciliation. Un ciel clair et des températures variant autour de 20 degrés marquent la météo en Tchéquie. C'était les informations par Jarka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Hier encore, il semblait que la crise gouvernementale tchèque était conjurée. Aujourd'hui, il s'avère que ce n'était qu'une illusion. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Cyril Svoboda, a été élu personnalité européenne de l'année. L'ancien président tchèque, Václav Havel, a accordé une interview au journal Hospodářské noviny. L'anneau du Nibelung, tétralogie de Richard Wagner, sera présenté au Théâtre national de Prague. Voilà ce qu'il y a au menu de cette émission préparée pour vous par l'ensemble de la section française de Radio Prague. C'est à ne plus rien y comprendre. Si vous nous suivez régulièrement sur Radio Prague, vous savez déjà que le pays traverse une grave crise politique depuis des semaines. Après de multiples rebondissements, nous vous annoncions qu'un accord avait enfin été trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi entre les principaux acteurs pour y mettre un terme. Mais quelques heures plus tard, cet accord était déjà mort et enterré. Où en est-on en cette fin de semaine ? Alexis Rosenzweig tente de faire le point sur une situation chaotique.
Budu se vracet do Bruselu, kde budu vykonávat trošku zanedbané své povinnosti. Kdyby jednání pokračovalo na tom rámci.
Je vais rentrer à Bruxelles où je vais remplir mes obligations d'ambassadeur. C'est ce qu'a déclaré plus que déçu Jan Kohout, l'homme qui aurait pu devenir premier ministre d'un gouvernement sur lequel s'étaient mis d'accord les trois formations de la coalition au pouvoir depuis les dernières législatives de 2002. Aujourd'hui, il conviendrait mieux de parler de l'ancienne coalition, tant la volte-face des sociaux-démocrates semble avoir définitivement sonné le glas de la majorité parlementaire dont il disposait avant la crise avec les chrétiens-démocrates et les unionistes. Contre toute attente, les sociaux-démocrates ont en effet refusé d'entériner l'accord qu'avaient pourtant négocié leurs propres dirigeants, dont le Premier ministre Stanislav Gross, et qui aurait permis, au moins provisoirement, de sortir de l'interminable crise dans laquelle est plongé le gouvernement. La principale raison de ce refus serait le trop grand nombre de concessions faites aux chrétiens démocrates de Miroslav Kalousek, qui s'était prononcé contre le gouvernement la semaine dernière lors du vote d'une motion de censure. Nouveau paradoxe donc sur une scène politique qui frise l'absurdité ces derniers temps, le Premier ministre négocie un accord que le parti qu'il préside rejette. Dès l'annonce de cette décision, les ministres unionistes de la Justice et de la Défense ont remis leur démission, ce qui porte déjà à 7 le nombre de ministres démissionnaires. À la veille du week-end, les commentaires de la presse nationale ne sont qu'un reflet de la confusion et de l'incertitude qui règne à Prague, une longue suite de questions et d'hypothétiques scénarios de sortie de crise. Le journal économique Hospodarské Noviny reprend les termes de la Constitution et explique que le gouvernement ne peut tomber qu'à la suite d'une nouvelle motion de censure, soutenue cette fois-ci par les communistes, ou bien en cas de démission de Stanislav Gross, ou encore en cas de démission d'au moins 10 ministres de son gouvernement. Soit un gouvernement minoritaire, soit des élections anticipées, envisagées en une le quotidien Pravo daté de ce vendredi. Le même jour pourtant, le président de la République a exclu de nommer un gouvernement qui ne s'appuierait pas sur une majorité à la Chambre basse. Václav Klaus ne voit en effet que 2 issues possibles à cette crise, un accord entre ceux qui n'arrivent plus à s'entendre ou des élections anticipées qui seraient, selon les sondages, largement remportées par le Parti civique démocrate, un parti dont il reste le président d'honneur et qui réclame l'organisation de ces élections dès l'automne prochain.
Václav Havel perçoit son actuel séjour de 2 mois aux États-Unis comme une occasion de se concentrer et de se consacrer à l'écriture. L'ex-président tchèque l'admet dans une interview qu'il a accordée au supplément du quotidien Hospodářské Noviny avant son départ pour Washington. Alena Gebertová l'a lu pour vous.
Václav Havel écrit-il ou écrira-t-il une nouvelle pièce de théâtre? La question accompagne l'ex-président tchèque depuis la fin de son mandat. Pour une fois, il donne une réponse moins évasive que d'habitude, en expliquant que la pièce dont le thème le préoccupe depuis bien longtemps et qu'il aimerait écrire pendant son séjour américain, puise son inspiration dans le roi Lear de Shakespeare. Une autre inspiration serait sa présence de 15 ans dans la grande politique, qui lui a permis de connaître beaucoup de politiciens qui, après avoir perdu leur poste et le pouvoir, ont vu s'écrouler leur univers. Dans ce contexte, Václav Havel avoue ne pas aimer écrire. Le premier pas est toujours affreusement difficile, mais dès que je m'y mets et que ça se passe bien, je me laisse envahir au point d'ignorer le monde qui m'entoure. Plus loin, Václav Havel s'interroge sur la définition d'un intellectuel. Si sous ce terme on entendait celui qui réfléchit sur les choses en les situant dans un large contexte et en leur donnant un nom, celui qui formule des avertissements et offre un regard décapant et non conformiste sur le monde, je serais honoré de pouvoir me considérer comme un intellectuel, dit-il. La politique occupe une place importante dans l'entretien que Václav Havel a accordé au quotidien Hospodářské Noviny. Il s'est exprimé dans ses pages à propos du système politique tchèque qui est, selon lui, trop fermé. Le système qui n'est pas ouvert n'est pas démocratique. Dans la première phase du post-communisme, l'ancienne nomenclatura communiste s'est liée avec le milieu des affaires, suite à quoi des escroques de toutes sortes l'emportaient souvent sur des gens honnêtes. La société ne veut le tolérer que pendant un certain temps, d'où sa volonté de purifier le système. Chez nous comme ailleurs, on a vu naître différentes initiatives en vue d'établir une nouvelle culture politique, de chercher une autre alternative ingénue. Même si Václav Havel a quitté le pays avant la culmination de la crise gouvernementale, les propos qu'il a dits, en conclusion, semblent être d'une actualité on ne peut plus fraîche. Je cite. La patience des gens est grande. Si des changements surviennent chez nous, peut-être faudra-t-il attendre 10 ans encore, ils se feront probablement en velours et en douceur. Je suis pourtant plutôt enclin à croire que nous pouvons nous attendre à un changement assez profond. À mon sens, les péripéties politiques grotesques que nous connaissons aujourd'hui ne peuvent que renforcer et faire approcher la révolte contre le présent establishment.
Jeudi dernier, les étudiants de Sciences Po Paris ont remis un prix au chef de la diplomatie tchèque, Cyril Svoboda, qui est, à leurs yeux, la personnalité politique européenne 2005. À cette occasion, le lauréat a pris part à un débat sur les défis actuels de l'Union européenne. Notre correspondant parisien, Jiří Slavíček, a assisté à cet événement pro-européen, marqué cependant par un certain europessimisme en France et la crise politique en République tchèque.
Le parterre était très prestigieux, mais surtout très jeune, lorsque Cyril Svoboda, le chef de la diplomatie tchèque, qui vient d'être élu parmi 6 candidats par les étudiants de l'Institut d'études politiques à Paris, la personnalité politique de l'année 2005, est venu personnellement non seulement chercher son prix, mais aussi discuter avec les jeunes étudiants qui l'ont élu. C'est une première et on espère qu'il y en aura bien d'autres l'édition de ce prix, disait fièrement le jeune porte-parole des associations jeunes européens et visage d'Europe des étudiants de Sciences Po en présentant le chef de la diplomatie tchèque aux étudiants qui l'ont élu. Ni Christine Ockrent, la journaliste politique bien connue en Europe, qui lui a remis ce prix après une discussion très animée avec les étudiants dans l'amphithéâtre, ni Cyril Svoboda n'ont pas caché leur joie. L'atmosphère était franchement pro-européenne. Mais il faut dire que les citoyens, aussi bien en France qu'en République tchèque, ressentent dans ce moment une profonde crise morale. En France, déjà 14 sondages successifs annoncent sombrement que la majorité des électeurs futurs sont prêts à voter non dans le référendum sur la Constitution européenne, tandis que Prague se retrouve pratiquement sans gouvernement. Cyril Svoboda, lors de sa rencontre avec les journalistes, nous a répété qu'il croit qu'on va finalement surmonter la crise et quant à lui, qu'il compte bien, même sans être ministre, de rester résolument dans la politique. De Paris pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
C'est pour la première fois que la tétralogie de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, l'anneau du Nibelung, sera présentée sur la scène du Théâtre National à Prague. L'inauguration solennelle de ce projet, qui est le plus important de la saison lyrique dans la capitale tchèque, a eu lieu ce jeudi. Le chef-d'œuvre de Richard Wagner, la tétralogie, est un immense drame mythologique, mais aussi une synthèse de tous les arts et une allégorie qui a permis à son auteur d'aborder les plus grands thèmes philosophiques de son temps. Le Théâtre National présentera les 4 opéras du cycle en collaboration avec l'Opéra du Rhin, Düsseldorf-Duisburg, qui apporte à Prague une production créée par le metteur en scène Kurt Horress il y a 30 ans et qui a beaucoup changé depuis ce temps-là. Tobias Richter, intendant de l'Opéra du Rhin, est co-auteur de la mise en scène de la tétralogie présentée à Prague.
Von meinem Vorgänger Kurt Horress, den ich übrigens vor 30 Jahren assistiert habe, nicht mal bringt.
Il y a 30 ans, j'ai déjà collaboré avec le metteur en scène de cette production et le résultat de notre travail ne cesse d'évoluer. Il ne faut pas oublier non plus un autre aspect. Notre conception reste classique. Il ne s'agit pas d'une production dans laquelle on trouverait des éléments modernes et fantasques. Elle aurait pu être créée à la lisière des 19e et 20e siècles, donc encore presque à l'époque de Wagner. Et nous estimons qu'une telle production devrait être présentée justement dans le théâtre où l'anneau du Nibelung n'a jamais été donné dans son ensemble.
La direction musicale a été confiée au chef d'orchestre américain, John Fiore, qui, lors d'une conférence de presse au Théâtre National, a surpris les journalistes par un discours en tchèque.
Je suis très content d'être à Prague et de présenter ici l'anneau, œuvre que je connais et aime depuis l'âge de 11 ans. Travailler avec votre orchestre est un plaisir pour moi. L'anneau est un défi pour chaque orchestre, mais jouer la tétralogie pour la première fois et dans son ensemble est un énorme défi. Normalement, on ne prépare qu'un opéra pour une période, mais nous présentons les quatre volets à la fois. Vous avez un très bon orchestre qui joue et collabore très bien. Il ne faut pas oublier l'importance du travail de l'orchestre. Et comme nous avons amené aussi d'excellents chanteurs de l'Opéra du Rhin, je pense que notre production vous laissera une impression inoubliable.
Myslím, že všichni dohromady připraví, no připraví nezapomenutelný zážitek.
En effet, pratiquement tous les rôles de la tétralogie, à l'exception de ceux des Valkyries, seront interprétés par les chanteurs de l'Opéra du Rhin, dont John Wegner, Wotan, Linda Watson, Brunhilde, et René Morlock, qui campera dans les quatre opéras successivement les rôles de Fricka, Erda et de Waltraute. Elle traversera ainsi toute la tétralogie.
Je ne suis pas pour la première fois à Prague. J'ai déjà fait beaucoup de séjours privés dans cette ville que j'adore. Mais c'est pour la première fois que je chante à l'opéra ici. C'est un grand plaisir d'être là et de chanter dans les quatre volets de l'anneau du Nibelung que j'aime beaucoup et qui me permet de rester à Prague pendant 8 semaines.
Vu les difficultés techniques de la présentation d'un tel projet, les quatre opéras de l'anneau ne seront donnés à Prague qu'à 2 reprises. Le premier cycle commence avec le prologue lors du Rhin le dimanche 17 avril. Le second sera donné au mois de mai. Miné par une affaire de corruption d'une ampleur sans précédent dans son histoire et le désintérêt du public pour son championnat professionnel, le football tchèque élisait vendredi son nouveau chef. 3 hommes au profil bien distinct étaient candidats au poste de président de la fédération. Guillaume Narguet vous les présente.
Ivan Hašek, Pavel Mokry et Vlastimil Koštial, alors de placer à sa tête un nouvel homme fort pour les 4 prochaines années à venir, le petit monde du football tchèque se devait de choisir entre un ancien international respecté des supporters, un diplomate morave modéré, mal connu, et un homme d'affaires froid et calculateur. L'enjeu de l'élection était de taille, car si la République tchèque jouit d'une solide réputation à l'étranger avec des représentants qui portent haut ses couleurs sur les terrains des plus grands championnats européens, chez lui, en revanche, le sport le plus populaire avec le hockey sur glace se trouve au bord du gouffre. La faute pour l'essentiel au scandale de corruption qui a éclaté au grand jour au printemps dernier et à des dirigeants qui pendant trop longtemps ont fermé les yeux sur des pratiques mafieuses pourtant répandues à tous les étages du football national, professionnel comme amateur. Ce manque de volonté des autorités de faire le ménage devant leurs portes et de soigner un mal qui ronge la société tchèque dans son ensemble n'a pas été sans conséquences. La principale aura notamment été de convaincre définitivement les derniers supporters, déjà lassés de l'exode des meilleurs joueurs, de rester chez eux le week-end plutôt que de se rendre au stade. Du coup, l'affluence moyenne pour un match de première division dépasse désormais à peine les 4000 spectateurs. Une misère qui n'est pas faite pour attirer les sponsors et faciliter les indispensables rentrées d'argent. Pour tenter de remédier à tous ces maux, 2 des 3 candidats faisaient figure de favoris. En premier lieu, Vlastimil Koštial, manager de la sélection et ancien président du Sparta. En 5 ans à sa tête, Koštial, qui préfère compter les euros que les buts, a pour lui d'avoir sorti le prestigieux club pragois du marasme économique dans lequel il s'enfonçait irrémédiablement année après année. Face à lui, Ivan Hašek, bien connu du public français, se posait donc en outsider. L'ancien joueur et entraîneur du Racing Club de Strasbourg pouvait compter sur le soutien du grand public et de la presse qui voyait en lui un homme de terrain intègre. Pas la moindre des qualités pour diriger le football tchèque.
C'était Faits et événements, une émission préparée pour vous par l'ensemble de la rédaction française de Radio Prague. Merci de l'avoir suivi.
Économie, commerce.
La francophonie, l'Union européenne et l'entreprise tchèque. Tel était le thème d'une conférence organisée la semaine dernière à Prague par le ministère tchèque des Affaires étrangères et celui de l'industrie et du commerce. Enjeux de la Constitution européenne, implantation des entreprises étrangères en République tchèque, utilisation des fonds structurels européens ou encore exportation des produits tchèques, les sujets économiques liés à l'Europe ont largement dominé les débats. Et de francophonie n'a presque point été question. Sûrement parce que près d'un an après son entrée dans l'Union européenne, la République tchèque affiche une bonne santé économique. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, à demi-mot, on se félicite même déjà du dynamisme et de l'évident intérêt des petites et moyennes entreprises pour les fonds structurels européens. Pour la période 2004-2006, plusieurs programmes ont été mis en place par le ministère pour faciliter l'utilisation des 260 millions d'euros alloués par l'Union européenne. L'objectif, il est triple. Création d'univers favorable aux entreprises, compétitivité des acteurs économiques tchèques, mais aussi assistance dans les démarches. Trois objectifs et des résultats déjà jugés positifs. Miroslav Somol, adjoint ministre de l'Industrie et du Commerce.
Jusqu'à présent, nous avons reçu 1 500 projets. Maintenant, ils sont dans le processus de considération. Et dans une période de maintenant 9 mois que le programme est appliqué, nous avons déjà décidé à peu près 700 projets qui sont déjà approuvés.
Aujourd'hui, les premiers projets ont même déjà bénéficié de transferts financiers. Une adaptation rapide et réussie dont se félicitent aussi les responsables d'organisations chargés d'un travail pédagogique auprès des entrepreneurs tchèques, bien souvent déroutés vis-à-vis des démarches à suivre concernant les fonds européens. Responsable de deux structures nationales chargées de cet encadrement, Marie Pavlou souligne l'importance de cet accompagnement pour les petites et moyennes entreprises.
C'est pas lié avec si nous sommes ou pas membres de l'Union européenne, parce que ce sont toujours les projets qui ont des procédures vraiment très claires. Et il faut les suivre très attentivement. Et pour les petites et moyennes entreprises, ça peut être quelquefois très très difficile parce que c'est le travail en plus.
Un surplus de travail, d'où la nécessité de ces structures privées ou semi-publiques pour mieux aider les entrepreneurs à finaliser leurs projets et ainsi contribuer au développement de l'économie tchèque. Une économie et un pays qui présentent aussi bien des intérêts pour les entreprises étrangères, notamment françaises. Gauthier Vasseur, français employé à Prague depuis plusieurs années par un cabinet de recrutement, connaît les potentialités de la République tchèque.
Les possibilités, elles se réduisent, mais elles sont quand même encore énormes. Et il n'y a pas que sur la République tchèque, il y a sur toute l'Europe centrale en général. C'est un pays qui il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose, donc il y a tout à faire. Pour toutes les sociétés qui font du business to business, par exemple, c'est des sociétés qui ont besoin de matériel, qui ont besoin du matériel qui vient de France, qui vient des États-Unis. Donc c'est des sociétés qui se développent et qui achètent, qui ont besoin de nos services, qui ont besoin de nos produits. C'est aussi des marchés de collectivités locales qui sont importants, c'est-à-dire où on refait des ponts, où on refait des routes. Et là, il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont présentes.
Une présence aujourd'hui facilitée pour ces entreprises occidentales. Depuis la simplification des démarches liées à l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne en mai dernier, les marchés économiques sont plus abordables et des portes s'ouvrent. De nouveaux marchés donc encore plus accessibles pour ces entreprises, mais aussi des atouts très attractifs propres à la République tchèque. Et en premier lieu, une main-d'œuvre meilleur marché que dans les pays d'Europe occidentale. Gauthier Vasseur.
Évidemment, il y a déjà le prix de la main-d'œuvre, mais aussi la qualité. C'est-à-dire que généralement, les sociétés qui investissent ici sont positivement surprises par la qualité de la main-d'œuvre en République tchèque. Il y a aussi la situation géographique qui est au centre de l'Europe. Et si on pense à la Bulgarie, la Roumanie qui vont joindre l'Europe dans un an, dans 2 ans, ici, on sera en plein milieu. Donc d'un point de vue logistique, c'est intéressant pour les sociétés françaises. Il y a aussi le coût de l'énergie qui est beaucoup moins cher que dans les autres pays de la région. Donc je dirais que ça, ce sont les atouts majeurs de la République.
Des atouts séduisants et donc des investissements étrangers, mais aussi des inquiétudes. Pour certains PDG tchèques, cette conjoncture positive n'est pas un acquis. Au contraire, presque. Elle n'est pour eux que la conséquence logique et éphémère de l'implantation récente de ces sociétés étrangères dans le pays. D'où la mise en garde lancée par Martin Roman lors de la conférence. Le directeur général de ČEZ, importante entreprise tchèque dans le secteur de l'énergie, reconnaît les atouts économiques de la République tchèque. Mais il s'inquiète aussi de l'avenir. Sans jamais être prononcé publiquement, la question des délocalisations des entreprises occidentales est au cœur du débat. Au ministère de l'économie, comme à celui de l'industrie et du commerce, le discours se veut rassurant. Au terme de délocalisation, on préfère celui d'extension ou d'implantation d'entreprises occidentales. Mais bien plus qu'une simple question de vocabulaire, ce sont deux visions politico-économiques qui s'opposent. Pour Miroslav Somol, du ministère de l'Industrie et du Commerce, si le phénomène est plutôt nouveau, il n'y a pas lieu de s'alarmer.
On a beaucoup d'investisseurs français ou allemands, mais ce sont les projets qu'on fait ici, les projets complètement nouvelles ou la reconstruction des usines vieilles ici, etc. C'est-à-dire, je crois que si on parle de ce phénomène de délocalisation, je crois que ce serait peut-être le cas envers la Chine ou Vietnam, mais je ne pense pas que les pays comme la Tchéquie, Slovaquie ou la Pologne seront le but ou la direction de ce processus de délocalisation.
Un discours rassurant qui a bien du mal à dissiper les craintes de plusieurs dirigeants d'entreprises tchèques, comme cette crainte de voir le pays se transformer en atelier bon marché pour l'Europe occidentale. Atelier, selon eux, bientôt délaissé une fois une main-d'œuvre encore moins chère trouvée plus à l'Est. Selon ces entrepreneurs tchèques, Martin Roman en tête, le directeur de CZ, la meilleure issue pour garantir une activité économique forte et durable dans le pays reste de soutenir les efforts des entreprises qui produisent une véritable valeur ajoutée, pour ensuite être en mesure de proposer un produit fini exportable, exportable et tchèque. C'est la fin de cette rubrique économie et de nos programmes en langue française. Merci de votre attention et à bientôt sur nos ondes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.